introduits dans les billets précédents relèvent d'une critique du développement capitalistique de l'urbanisation contemporaine. Elles réinterrogent nos manières de faire la ville et d'en accepter les rationalités savantes. Soit dit en passant, le fait de le dire rend intelligible autrement ce concept. C'est sur cette intelligibilité que l'on pourrait d'abord s'arrêter. Il me semble que le droit à la ville permet justement de faire reconnaître les différentes formes d'intelligibilité et de sensibilité. Avant de creuser cet argument, arrêtons-nous d'abord sur les définitions. Intelligibilité, nom féminin. Degré de compréhension d'un message verbal ou d'une forme de parole, naturelle ou synthétisée, déterminée à l'aide de tests de perception, nous dit le Larousse. Pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est le caractère de ce qui est intelligible au plan de l'intelligence ou de la perception auditive. Ce centre développe donc deux sens principaux. D'une part, ce qui est intelligible par l'intelligence, donc ce que l'on peut saisir, analyser et présenter comme nécessaire. D'autre part, cela renvoie à ce que l'on peut percevoir par l'ouïe, au sens du bruit, que l'on dit intelligible. Reconnaître un droit à faire la ville revient aussi à interroger nos savoirs. Les experts ne sont pas les seuls capables de penser la ville. Aujourd'hui, la place des savoirs tirés de l'expérience reprend de sa valeur. Par exemple, les hôpitaux commencent à intégrer les savoirs des patients atteints de maladies graves depuis longtemps dans leurs services. Ces patients experts permettent de donner des conseils à des jeunes malades. Si on applique cette idée à la ville, cela offre des possibilités de réflexion démentielles. Les architectes ou urbanistes ne sont pas les seuls en mesure de revendiquer le droit à faire la ville. D'autres populations sont tout autant légitimes à le faire. Si les parties prenantes de la création de la ville sont plurielles, alors on peut aussi reconnaître des formes plurielles d'expression des attentes. On peut alors considérer des opinions, qu'elles soient formulées à l'écrit, à l'oral ou à travers d'autres formes, par exemple par le biais artistique. Des sources demeure cruciale. Avec le développement des sociétés urbaines, j'ai l'impression que la preuve ne peut être qu'écrite. On considère donc qu'elle est supérieure à des formes différentes d'expression, ce qui est critiquable, mais j'y reviendrai dans l'extrait suivant. Le droit à la ville peut aussi être défini par la pluralité des points de vue qu'il sous-entend. On peut se sentir concerné par la ville à différents âges de la vie et selon différentes positions sociales. De ce fait, il est tout aussi judicieux de considérer la pluralité des modes d'expression. On n'est pas forcément aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral ou au dessin. Accepter le droit à la ville revient bien à accepter des opinions de différentes natures et avec des contraintes propres à chaque format. Le travail des phonothèques est à ce titre très intéressant. Les récits de vie sonore qui sont transmis ou les chants sont des témoignages de différentes natures qui concourent à nous renseigner autant sur une époque que sur des manières socialement situées de penser le monde. Nous y reviendrons dans le troisième extrait de ce documentaire. C'est en faisant vivre les archives sonores qu'elles peuvent constituer un patrimoine riche sur l'une ou l'autre question thématique. En ce sens, on peut aussi dire que le droit à la ville permet, par l'oralité, de mettre sur le même pied d'égalité tout un ensemble d'intelligibilité et de sensibilité. Faire ville revient aussi à écouter la pluralité. Les espaces urbains sont justement caractérisés par la multitude et la différence. En rendre compte permet aussi d'en faire un portrait plus juste. Revendiquer son droit à faire ville revient aussi à revendiquer son droit de parler. le droit de citer a justement toute sa place. Réinterroger le format par lequel une revendication s'exprime est aussi une manière de repolitiser le débat. Ce n'est pas anodin de dire de quelle ou quelle façon une idée peut s'exprimer. On n'est pas forcément d'accord de dire à l'écrit ce que l'on pense. Le dire est une autre manière de faire. La légitimité qu'elle sous-entend est une façon de poser la question de la norme sociale qu'elle interroge. Il est clair que le système de valeurs orales, écrites, relève aussi de la façon dont les sciences se construisent autour du débat de société. La science est-elle menacée par la prise en considération de l'oral comme une source fiable? Peut-on remettre en cause la construction logico-déductive induite par l'écrit? Rendez-vous dans le prochain billet.